Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap et le FIF. Bonjour à toutes et à tous. Le Festival international du film de fiction historique a lieu tous les ans à Plaisance-du-Touche. Il est la création d'un tout jeune homme, pétri de passion et de talent. Contre vents et marées, même malgré le Covid, mais avec le soutien des collectivités locales que sont la ville d'accueil, le département et la région Occitanie, il anime un festival à la programmation riche et originale, dont un des mérites, et non le moindre, est la participation active des écoliers et collégiens. Je vous propose dans un premier temps d'écouter ce président, Étienne Garcia, et puis dans un second de participer, au moins par l'écoute, à la cérémonie d'ouverture. Place au FIF. Étienne Garcia, bonsoir. Alors, vous me recevez chez vous, vous me recevez dans votre loge. On est au bord de démarrer la 7e édition du Festival international du film de fiction historique qui va se tenir aujourd'hui à samedi soir, c'est ça, à Plaisance-du-Touche. Alors, c'est la 7e édition. Est-ce que à la 7e édition, on est toujours heureux d'être président? On a envie, on est encore créatif ou on s'est déjà installé dans une certaine routine?
En fait, la routine, je pense pas. Il est vrai que sur des manifestations annuelles, contrairement à des manifestations pluriannuelles, ça reste un temps. C'est 11 mois de travail pour 4 jours. Et 11 mois de travail nous oblige à nous renouveler. Déjà, on a les renouvellements d'effectifs classiques en fonction des disponibilités des personnes. Et puis, on dépend, comme nous sommes un festival de films présentés en avant-première, on dépend du travail des réalisatrices et des réalisateurs chaque année qui viennent à souligner, à signer des films dont les périodes de l'histoire, dont les histoires sont différentes. D'ailleurs, avec le recul, on se rend même compte que y a des années où on va retrouver des couleurs communes et d'autres où on va parler d'autres choses. Et en fait, ce sont des crus. C'est un peu comme un vin. Finalement, on présente une sélection, on présente un peu des crus. Donc le renouvellement artistique, en ce sens, il est quand même important. Après, la force d'un ancrage, c'est quand même aussi la continuité, à savoir arriver à fidéliser un public.
Talents. Ça s'est fait, le public, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu une institution.
Oui, mais ça, c'est certain, mais ça n'empêche quand même que c'est une exigence de qualité. On peut perdre aussi ce qu'on est arrivé à avoir, donc pas les décevoir, et puis avoir une continuité artistique avec des personnes que l'on suit ou pour lesquelles peut-être on peut présenter leur film d'après, quand ils restent dans l'historique. On a peut-être déjà pu faire un film, parce qu'en 7 ans, finalement, si on considère qu'un film c'est 3 ans, 4 ans, donc on peut peut-être revenir et représenter un film ou suivre des cas artistiques de personnes qu'on avait eues à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Faire émerger aussi des jeunes via les courts-métrages, ce qui est primordial de notre côté. Donc tout ça appelle au renouvellement. Puis on reste une équipe très jeune et l'idée étant de ne pas s'endormir sur des précarés, parce que de toute façon, l'art étant sans cesse en évolution, on est obligé de s'y adapter et de le suivre, et ça nous motive d'autant plus.
Alors avant de venir à la sélection, le festival, le FIFFH, je l'ai bien dit.
Le FIF.
Le FIF, voilà, on va dire le FIF. Comment ça marche? Parce que derrière ces projections que nous allons voir, il y a toute une organisation. Il faut quand même parler des bénévoles aussi, il y en a, j'imagine. Et parler aussi de l'intendance. Comment vous faites fonctionner cette grosse machine?
Oui, alors on est structuré à peu près 60. Nous avons déjà une association avec un certain nombre d'adhérents. Et ensuite, un travail à l'année qui est fait par évidemment peu de monde. Des réunions régulières maintenant en visioconférence avec le reste des bénévoles, notamment à partir du mois de juin pour les informer, avril, juin. Pour commencer à les informer des couleurs que vont prendre l'édition, parce qu'avant on est en financement et en travail de longue haleine, donc il faut qu'on fasse tout un travail en amont, nous, le bureau de l'association, et puis après on se développe. On a un directeur, Robin Berthomieux, qui est un nouveau directeur qui a intégré en tant que salarié notre association. Et puis après, évidemment, on se démultiplie en préparation et sur le festival même pour arriver à peu près à 60 personnes qui viennent de tous horizons, mais qui viennent voilà, sur tous les pôles que peuvent contenir un festival avec leur sourire et leur volonté et la convivialité et la force du partage et de la rencontre. Je pense que c'est des moments à chaque fois extrêmement singuliers, des, comme je disais tout à l'heure, des crues dont on se souviendra toujours. Il y a eu des années marquées, une année il pleuvait, une année on a vu tel grand film, une année il y avait une telle invitée. Voilà, c'est toute l'émotion qui vient à passer en chaque instant, compactée en 4 jours, parce qu'on ne peut pas faire trop long à la vue des moyens que ça nous demande, mais c'est passionnant.
Si on est à la 7e édition, vous savez comment, c'est à quel âge ?
25 ans.
Ah oui, et donc...
J'avais 25 ans, je me souviens d'avoir cette idée en tête par rapport à la fiction historique à un moment donné où il fallait trouver quelque chose, et je m'étais dit, il y avait déjà énormément de thématiques qui avaient déjà été soulevées, et faire un énième festival ne portait pas, aurait son intérêt, mais c'était pas mon projet. On voulait quelque chose de singulier qui nous identifie. La question de l'histoire nous rassemblait tous, rassemblait les jeunes, rassemblait les moins jeunes, rassembler les familles, rassembler le scolaire, c'était profondément intergénérationnel, et je voulais, ce à quoi on est arrivé, avoir un festival qui débute à 8h30, 9h du matin quand les petits arrivent, et qui termine à 23h.
Voilà, les jeunes, les petits, vous associez beaucoup la jeunesse, qui commence d'ailleurs très tôt, puisque...
CE2.
CE2, oui.
CE2, 8 films en scolaire, sur 9 niveaux, 8 films en court-métrage et 8 longs-métrages. Donc ça fait, sur 24... On a cette proportion, et oui, CE2, c'est un avec chaque année une sélection différente proposée aux élèves.
Donc un jury de jeunes.
Alors, il y a un jury de collégiens, mais la sélection, la programmation qui est proposée, il n'y a pas un seul film qui est revenu d'une année à l'autre en scolaire. Là où d'habitude, les séances scolaires, on dit, bon, ben, on met ce film en scolaire, ça passe bien, etc. Non, non. Nous, c'est en fonction des programmes, en fonction du public, en fonction de l'âge, de ce qui peut être touché, on travaille des enseignants référents par niveau jusqu'au lycée, pour arriver à construire une programmation, puis amener une couleur. Cette année, c'est Nelson Mandela, mais on a une couleur à amener chaque année qui nous permette aussi d'accrocher assez rapidement les enseignants, parce que c'est dès le mois d'avril qu'on est en lien avec eux. Donc c'est un travail très en amont, avec des ateliers. Ils ont un jury de collège qui regarde les 4 films présentés au collège et qui dénoue son palmarès.
Il y a un les enseignants jouent le jeu, donc.
Les enseignants jouent le jeu. Au primaire, pareil, il y a un concours de dessin qui est lancé. Et au lycée, on a une grande participation aussi. Et l'idée étant que les élèves soient le plus acteurs possible d'une manifestation, pas seulement passifs, mais qu'ils en ressortent de là acteurs et que ce soit un bassin de curiosité, une ouverture pour aller vers la littérature, vers la peinture, vers leurs enseignements classiques. En tout cas, une ouverture aux autres. Je pense que le plus important, c'est de s'ouvrir aux autres.
En 7 ans, on a un peu de recul. Donc tous ces jeunes que vous avez vus, petits, moins jeunes... Vous les avez peut-être vus évoluer. Est-ce que vous les revoyez d'une année sur l'autre ? Et est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'a pu avoir le festival et leur participation au festival sur leur vie, sur leurs choix, sur leurs engagements ?
Alors, ce qui est très intéressant avec le temps, c'est notamment la question du collège. Parce que c'est là où ils restent le plus, 4 années. C'est là où ils grandissent le plus, quelque part, puisqu'ils arrivent enfants et ils ressortent à 15 ans, certains en taille adulte. Où beaucoup se fait, un schéma intéressant, et on a pu construire avec le collège, avec une continuité, et retrouver des élèves que l'on a pu suivre. Au niveau du primaire, on les perd un peu plus, si ce n'est que les enseignants qui, eux, les perdent moins, viennent à nous évoquer et les souvenirs qu'ils ont et la portée que ça a pu avoir par rapport à l'enseignement. Et au niveau du lycée, c'est plus compliqué, parce que c'est 3 années... Et qu'il n'y a pas de lycée à Plaisance, et du coup on travaille les lycées, mais notre lien est plus complexe. Plus on grandit, plus c'est complexe de créer du lien sur la durée. Maintenant, la continuité, elle est passionnante, et on essaie, et on y est arrivé. Par exemple, j'ai ce souvenir absolument fantastique d'avoir... on est primé Franck Ferrand, qui était sur la scène en 2017, prime une élève qui n'avait pas forcément de résultats scolaires, qui était en difficulté à ce moment-là, et dont même la famille était extrêmement étonnée qu'elle vienne à gagner, parce qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt qui était porté là-dessus. Et cette élève-là, pour laquelle on s'est dit, bon, bah, ce sera une soirée éveillée dans une vie qui n'est pas forcément simple, revient l'année d'après. Et hors séance officielle ou hors séance scolaire, on la voit arriver avec sa petite sœur sur le parvis qui était complètement vide un matin. Et je la vois arriver, je la reconnais, je m'approche d'elle, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu cherches ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Elle me dit « On est venu chercher un programme. » Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fantastique quand on vient à ouvrir qu'elle était juste venue chercher un programme.
On est à Plaisance-du-Touche, bon, tout ne peut pas se passer à Toulouse, hein. Il faut que diversifier. C'est un vieux partenariat avec cette mairie, ça continue toujours de façon heureuse.
Très bien, c'est chanceux finalement, on sait qu'il y a énormément de manifestations dans la capitale pour le coup, et qu'il y a plusieurs festivals du cinéma d'ailleurs, je crois le Groland en ce moment, Cine Espagna qui arrive, etc. Donc les fourchettes étaient faibles, et puis je trouve qu'il y a un potentiel remarquable quand on construit des sites comme l'Espace Monestier à Plaisance, en termes de bassin de population, en recherche d'action culturelle, puisque ça reste ce qu'on appelait les banlieues dortoirs, mais qui, pour autant, que ce soit pour les salariés d'Airbus ou pour toutes les personnes qui résident, viennent à prendre plaisir à vivre sur ce territoire. Et pour le coup, on est arrivé à un moment donné où la mairie développait le secteur culturel, pas un moment donné où elle était rassasiée d'événements, là où Desverry avait travaillé longtemps. Non, c'était le dernier mandat du précédent maire qui avait dit « Cette année, à partir de ce mandat, on va commencer à faire de la culture ». Ceci a été suivi par le nouveau maire Philippe Guyot. Et donc derrière, le fait de pouvoir être dans cette croissance qui est une croissance culturelle, mais c'est aussi une croissance touristique, économique. Enfin, c'est à tout niveau qu'on arrive à grandir quand on fait une manifestation, on rapporte à tout le monde. Et on fait travailler les restaurants, on fait travailler les hôtels, on fait travailler tout le monde. Donc ça, c'est assez formidable. Et donc voilà, donc on a pour le coup, cet attrait, ce soutien indéfectible des élus qui fait du bien et j'espère qu'il perdurera.
Alors 7e édition, qu'est-ce qui est au programme, qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors c'est très varié, c'est littéraire, c'est riche. On a beaucoup de films qui questionnent sur l'égalité sociale. Nous avons une effigie avec Nelson Mandela et on s'était dit au-delà de la question de la liberté qu'on aborde beaucoup aussi parler d'égalité. Un film américain dont le réalisateur va venir, Alexander Brown, vient à traiter de la question de l'égalité aux États-Unis par le biais d'une histoire vraie d'un petit-fils du Ku Klux Klan engagé pour la cause de Rosa Parks et qui a risqué énormément de choses. Donc c'est un biopic dont le réalisateur vient de l'Alabama pour venir le présenter au Festival de Deauville. On a un film merveilleux sur la question de l'égalité avec Sabine Azéma et Lina Koudry qui s'appelle La place d'une autre, qui se passe en 1914, où deux femmes d'origines diverses, enfin de différentes origines sociales, se retrouvent. Celle dont l'origine est élevée se voit frappée d'un obus, l'autre pensant qu'elle est morte, de même que le colonel Chabert de Balzac, vient à prendre sa place sociale et puis un jour, évidemment, l'autre revient. Et qu'est-ce qu'à un moment donné une société peut faire quand on a un changement de place sociale ? Quel est le raisonnement humain ou pas humain, rationnel ou pas rationnel d'une société ? Puis évidemment le biopic sur Eiffel, de nos frères blessés sur les premiers événements de la guerre d'Algérie qui ont amené ce que l'on sait et qui questionnent sur est-ce qu'au moment où on pose des revendications, si on n'étouffe pas tout de suite, on ne peut pas trouver des ententes pour faire évoluer les choses plutôt que un certain nombre de meurtres qui ont été commis suite aux attentats et de condamnations de la part de l'État pour ne pas venir à défendre les premiers troubles faits des événements de 54. Voilà, puis d'autres films, Génie Grandet adapté de Balzac, Une jeune fille qui va bien, merveilleux film de Sandrine Kiberlin, plus les courts-métrages dont on a parlé, extrêmement riches.
On arrive à attirer des réalisateurs, notamment étrangers, jusqu'à Plaisance-du-Touche.
On en est heureux, nous.
Alors, oui, parce qu'il y en a toujours eu.
On est un peu magicien
quand même.
Non, on en est heureux. C'est la première fois vis-à-vis des États-Unis. On s'est tourné vers l'international tôt parce qu'on pense qu'au niveau de l'historique, on n'a pas de leçons à donner. Et puis, je pense par exemple les Britanniques ont une plus-value sur la série historique depuis bien longtemps, hein, la question de l'époque, etc. De fait, je pense d'avoir un cadre du sud de la France qui est agréable, du fait de pouvoir lier avec des partenaires indirectement. Mais je prends l'exemple du Festival du film américain de Deauville qui a eu lieu un peu avant. Et peut-être parce que le pass sanitaire permettait de rester un certain nombre de jours sur le territoire, on est arrivé à cela. Et moi, j'en suis ravi, pas forcément pour la question de Plaisance, mais pour le rapport à l'autre, encore une fois, et à l'international. On a tendance, nous, les pays, un peu moins avec l'Europe, mais à se replier quand même beaucoup sur notre idée. On ne sort pas réellement de nos sentiers battus. Et la question de l'histoire, finalement, l'histoire française nous intéresse, mais vous n'avez pas beaucoup de films en France qui passent sur l'histoire des autres. On parle beaucoup de notre histoire à nous. Et bah, je prenais le cas d'un symbole universel comme Mandela. Finalement, c'est un symbole universel, mais du coup, quand on parle d'égalité, qu'est-ce que c'est que l'égalité aux États-Unis? C'est pas du tout les mêmes problématiques et la même histoire qu'on a pu vivre en France. Et le fait de pouvoir avoir un échange en salle avec un réalisateur qui a tourné son film dans l'Alabama, produit par Spike Lee, qui venait de présider le jury du Festival de Cannes cette année et grand défenseur de la lutte, on trouve ça remarquable. Ça offre au public un échange exceptionnel et physique, là où on a eu beaucoup de virtuel ces derniers mois, donc on en est ravis.
Le public va venir nombreux, aussi nombreux que d'habitude, ou est-ce que les jauges, compte tenu de la pandémie de Covid, vont vous imposer de laisser un peu des gens dehors?
Alors depuis le mi-juillet, on a une chance, c'est que les jauges ne nous sont plus, ne nous sont plus limitées. Le public va-t-il venir aussi nombreux? Ça, c'est une question qu'on s'est posée longtemps. À la vue du nombre de passes que nous avons vendues, nous avons dépassé 2019, donc la pré-pandémie. Donc on est sur une volonté absolue des gens de ressortir. Donc ça fait plaisir. Et puis je pense que la programmation y a fait, parce qu'on a eu la chance d'avoir enfin, chance. 6 mois de fermeture de salles, donc un stock de films énorme non sortis, ce qui n'était pas toujours le cas et qui nous permet de pouvoir présenter des films qui ne sortiront par exemple que fin janvier ou en février. Donc c'est rare d'avoir 6 mois d'avance, mais le calendrier des sorties étant
C'est
tel.
un des effets positifs du Covid.
C'est un des effets positifs. L'effet négatif, c'est la sur-sollicitation des talents, avec une partie des festivals reportés au mois de septembre, qui devait avoir lieu en avril, le théâtre ayant repris au mois de septembre alors que tout était fermé l'année dernière, et donc du coup un boom économique et un boom de travail colossal qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup plus de public, pas toujours la disponibilité des talents, même si pas mal de talents sont disponibles cette année pour venir, mais en revanche, je repars toujours sur la question du public. Tout cela, on le fait pour le partager avec le public. S'il n'y a pas de public, c'est que la manifestation a un problème. Si on a le public, ça veut dire que sa manifestation a une légitimité. Et à partir de là, on construit.
Qu'est-ce que le Covid, on parle toujours de l'après, il y avait une société avant, une société après, bon, c'est peut-être un peu une vue de l'esprit, mais est-ce que le Covid a changé quelque chose dans le cinéma? Pas uniquement dans les publics, pas uniquement à cause des jauges, mais est-ce qu'on va travailler différemment? Est-ce qu'on va faire des films autres? Est-ce que...
Alors, sur la façon de travailler, on a été protégé très vite et le cinéma ne s'est pas arrêté contrairement au théâtre puisqu'il ne côtoyait pas le public. Là où je pense que, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, il y a eu un renfermement, une inquiétude, une anxiogénéité qu'il y avait peut-être moins avant, sur l'autre, sur l'extérieur, sur la pression qu'on pouvait nous mettre, sur une idée peut-être d'une individualité qui se concurrence un peu à d'autres individualités, et sur un sentiment du collectif qui a baissé. Je pense que c'est de manière sociétale, le cinéma n'en étant qu'une image, hein, un reflet. Mais de manière sociétale, je ressens plus de renfermement. Alors,
Ça veut dire qu'on va toujours bien sûr tourner des films, mais est-ce qu'on va les regarder de la même façon? Est-ce qu'on va aller dans ce qu'on appelait les salles obscures?
alors, au niveau du public, je pense que la demande, parce qu'il y a de la convivialité, revient. Par contre, au niveau des talents, on s'aperçoit que le fait de côtoyer un public n'est plus une obligation. C'est-à-dire qu'on a fait des films, on continue à travailler, on continue à faire des films, le fait que ces films ne sortent pas, ça change pas grand-chose à leur économie. Et puis finalement, quand on vient faire des films, contrairement au théâtre, où le public est primordial, que le film soit bon, soit pas bon, la rencontre avec le public, aujourd'hui, sur les plateformes, etc., elle n'existe pas. En télé, elle n'existait pas. Donc, on se rend compte que c'est pas la même chose. Au Festival de Cannes, on a eu un Festival de Cannes sans public,
Public.
enfin, avec peu de public. Il y avait beaucoup de professionnels, mais il y avait peu de public, il n'y avait pas les internationaux. On pouvait accéder facilement aux salles, mais il y avait moins d'invités aussi, moins de talents qui étaient là pour venir représenter. Et je ne pense pas que ce soit une peur de la pandémie, c'est peut-être l'idée que le cinéma est quelque chose qui se fait pendant longtemps, un film qui sort bien après, qu'on n'est pas lié à une actualité, et que, je prends un exemple d'un film qu'on va présenter demain, de nos Frères Blessés, le réalisateur a eu le temps d'en tourner un autre pendant la pandémie, après celui-là. Et qu'à un moment donné, c'est comme un auteur sur lequel on revient sur un livre qui n'est plus dans l'actualité, qui n'est plus en promo, les choses viennent à s'enchaîner, on n'est pas cette idée que faille absolument tout de suite le défendre devant le public. Enfin, je pense que les choses évoluent. Il y a des films qui doivent sortir en salle, au dernier moment, on les voit sortir sur plateforme. Enfin, les choses évoluent là-dedans. Alors nous, on essaie de montrer, et parce qu'on y croit, que le rapport à une salle est absolument primordial. C'est ce que
l'on
défend.
Un danger pour les exploitants que ces plateformes Netflix ou autres, ils ont fait beaucoup d'investissements, ils doivent beaucoup s'inquiéter aussi.
Oui, et je crois qu'ils ont fait des accords dernièrement pour les obliger à réinvestir dans le cinéma. Ça a été une demande du ministère pour là-dessus, un danger et puis un risque absolu dans une société entre guillemets à la carte où tout est votre choix, un risque absolu de découverte de l'imprévu. Moi, ce que je trouve absolument remarquable en allant au cinéma, c'est la non-connaissance de ce que vous allez voir. Alors que finalement, les algorithmes des plateformes vous pourrez voir aussi, les autres ont vu aussi, venant avoir vos goûts, etc., vous renferment dans, pas forcément un narcissisme, mais en tout cas une idée plus individualiste de la chose. Et le cinéma, pour moi, c'est une fenêtre sur le monde. Donc si on le voit dans ce sens, je suis heureux qu'on ait toujours des horaires pour aller en salle, qu'il y ait toujours des gens autour de vous qui ne réagissent pas de la même façon et qui nous connectent aux autres. Et c'est un art collectif, il faut continuer à le vivre collectivement. En tout cas, c'est mon souhait.
Un film, ça, l'intérêt que l'on va porter, l'intérêt que va porter le public, donc le temps qu'il va rester en salle, c'est combien aujourd'hui ? Ça tourne de plus en plus rapidement, non ?
Ouais, alors il y a des films qui disparaissent au bout d'une semaine, il y a des films à qui on donne 3 semaines, il y a des films à qui on donne 1 mois, il y a des films à qui on donne 2 mois. Maintenant, là, on a vu sur les nouvelles sorties qu'il y a 4 films qui sont arrivés à E4 à faire 6 millions, mais dont la majorité sont des comédies, donc Kaamelott ou SS117. Bon, il y a Bac Nord, le film sur les banlieues de Marseille. C'est beaucoup plus compliqué pour la réessayer, d'arriver à survivre et à vivre. Il faut redonner une forme de confiance, je pense, générale, pour arriver à retourner dans la salle pour voir des films pas forcément simples. Et ça, c'est assez difficile. C'est-à-dire que dans une société du divertissement, on a davantage tendance à vous dire « Ah non, moi, si je sors au cinéma, c'est pour m'aérer. » La question de s'aérer sur des choses qui sont pas simples, on s'aère quand même, hein, parce qu'on découvre des choses. Voilà, maintenant...
Mais est-ce qu'il y a l'état d'esprit pour ça ? Alors, des festivals comme le vôtre, en plus, qui s'adressent directement à la jeunesse, permettent de créer justement cette curiosité, cette envie, cet état d'esprit. C'est quand même loin, là on est dans le domaine plus général de la culture et plus du cinéma. Les gens n'ont pas envie de se creuser la tête, n'ont pas envie de découvrir forcément, n'ont pas envie de savoir, n'ont pas envie de chercher. C'est une démarche intellectuelle et de moins en moins de gens l'ont aujourd'hui.
Moi je pense que la vraie horreur... mais d'un monde qui sans doute commercialement vit sur l'individualisme, c'est-à-dire qu'on a tiré les gens sur la commande à la carte, dans la vie de manière générale, le drive, tout ce qui existe dans la question du choix et le fait de pouvoir aller vers soi, et que quelque part, évidemment, sur le siècle qui vient de passer, on s'en ressort évidemment sur des vraies problématiques d'intégrité collective et d'acceptation collective. Le fait de sortir d'une œuvre en disant « ça m'a pas plu » est totalement légitime. Vincent Lindon a subi quelques critiques avant d'avoir la Palme d'Or, et j'étais à la conférence de presse à Cannes de Titane, de Julia Ducournau, et à un moment donné, le journaliste de la presse espagnole disait « vous vous attendiez quand même aux critiques avant de venir présenter un film comme ça ?» Et il a dit, mais je fais pas ça pour ça. Et il a dit, quand vous venez à manger un chocolat, certains vont le trouver bon, d'autres ne vont pas le trouver bon, ça vous dérange pas. Et il a dit, pour autant, il dit, venir à penser qu'un film, vous pouvez ne pas l'aimer, va faire derrière qu'on ne devrait pas le faire. Et il indiquait quelque chose de vrai, c'est-à-dire que sur la question du gustatif, on aime, on n'aime pas, mais on va quand même à un moment donné goûter, ou en tout cas pouvoir voir. Sur l'art, c'est pareil. Un art qui laisserait indifférent ne serait pas de l'art. Et je pense que c'est important de ramener les gens au fait de dire que c'est totalement libre de ne pas aimer. Mais il faut découvrir.
Il y a un excellent livre qui est sorti il y a quelques mois de Gérald Bronner qui s'appelle « L'apocalypse cognitive » que je me plais à citer. Et je ne suis pas le seul à le faire d'ailleurs. Et Gérald Bronner est quand même dans son approche extrêmement critique sur ce qui se passe aujourd'hui. Apocalypse cognitive, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Autrement dit, on va de plus en plus vers de la simplicité, vers des choses qui attirent l'homme naturellement, c'est-à-dire le sexe et la violence. Et dans la mesure où on a de plus en plus de temps libre, on pourrait imaginer que justement le niveau culturel, le niveau global va monter, et on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. Est-ce que c'est inquiétant ?
Alors moi, le frein, après, je ne suis pas psychiatre, hein, mais ce que je trouve extrêmement fascinant, c'est la peur du vide qui est construite peut-être par une société la peur du vide ou de l'inconnu qui fait qu'on est sans arrêt obligé de se reconstruire un environnement dans lequel on est certain d'avoir la main. Et en fait, la manipulation que peut envoyer une œuvre d'art, que ce soit un livre, un film, manipulation dans le sens où on vous écrit des mots, où on vous montre des images que vous venez à lire ou à découvrir, c'est pas vous qui avez la main dessus, vient à quelque part aller un peu contre, j'ai envie de dire, une idée de tout gérer dans sa vie, ou en tout cas de tout contrôler. Et il faut presque pour certains venir à faire des efforts, où ça devient un effort de découvrir quelque chose, là où à la base ça devrait être naturel. Moi, mon idée, c'est pourquoi ça devient un effort. Pourquoi la peur de ne pas arriver à gérer, à recevoir un message, vient à prendre le dessus, quelque part, sur la curiosité ou sur la capacité de s'ouvrir. Comment on peut arriver à utiliser ce temps à ne faire que ce que l'on maîtrise et à ne pas découvrir l'autre, là où on se dit qu'il ne faut pas une vie pour pouvoir découvrir tout ce qu'on a à découvrir. Donc peut-être que c'est... En tout cas, moi, je pense que la consommation y fait grandement. Je pense qu'il y a une économie derrière ça, une médiatisation qui s'est amplifiée sur la protection individuelle. Encore une fois, protégez-vous individuellement et pas collectivement. Un retrait de la citoyenneté, des personnes qui ne vont plus voter. Enfin, on a, j'ai envie de dire, la question du collectif, elle est remise en cause dans notre système depuis un moment et elle est très difficile. Alors le sport unit encore. À certains niveaux, à un certain niveau de victoire, le sport vient à unir, mais à un certain niveau de défaite, il désunit aussi vite qu'il a uni. On s'accroche beaucoup à la victoire parce qu'il y a une forme de fierté. Maintenant, comment à un moment donné on vient à se retrouver derrière une identité ? C'est des grandes questions que l'on se pose et qui sont complexes.
Vous parliez d'économie du cinéma et vous parliez aussi de films qui vont rester une semaine sur les écrans. Combien ça coûte un film aujourd'hui ? Parce qu'un film qui va rester une semaine, on peut dire que finalement, il ne gagnera jamais d'argent, voire il va en perdre beaucoup.
À l'époque de la pellicule, ça coûtait très cher, on en faisait peu. Oui. Maintenant, ça coûte peu cher, on en fait beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Alors,
Enfin, ça coûte peu cher un film, c'est-à-dire ?
Ça coûte peu cher par rapport à ce que coûtait la pellicule sur les développements, mais... on a le droit de faire des longs métrages en dessous d'un million d'euros, ce qui n'était pas le cas avant. On a des libertés, il faut respecter les gens, mais vous pouvez, sur des petits films, venir à payer les gens au SMIC, alors qu'il y a des conventions collectives qui existent. Donc on a laissé les libertés à pouvoir faire. Il y a des films hors économie, hein, les courts-métrages notamment, qui ne sont souvent pas rémunérés. Et puis après, en fonction du film et du projet du film, on a énormément de films dans ce qu'on appelle annexe 3, hein, qui sont en dessous de 2 millions d'euros. Et puis après, on a des films qui coûtent plus cher. Mais beaucoup... parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui essaient et ça met des années à financer, c'est un tout petit nombre de personnes qui ont des films qui coûtent très cher. Et puis ensuite...
Est-ce qu'un film qui coûte cher est un gros film ?
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a aucun rapport.
Aucun rapport. Maintenant, il y a des scénarios qui ne peuvent pas être faits de manière comment dire, intelligente. On ne peut pas arriver à les réaliser correctement sans avoir un budget, parce que le fond du scénario décevrait le reste. Donc il y a des films qui ne peuvent pas être faits sans un certain budget, il y en a d'autres pour lesquels il y a trop de budget par rapport au film, et puis encore une fois, l'argent n'est qu'une valeur marketing marchande contre un retour économique, c'est-à-dire combien on met sur un film pour combien de recettes. Un film comme Les Tuches, quand ça fait des millions d'entrées, ben derrière ça peut coûter très cher. Après, les paris qui sont faits par des distributeurs qui sont intéressants, mais c'est pareil dans le livre, hein. C'est le fait de dire, bon, je prends peu de risques sur celui-ci parce que en termes de casting, de qualité, etc., on sait que ce film va marcher. Par contre, on va mettre des moyens, on va prendre plus de risques sur des films pour lesquels on y croit vraiment et sur lesquels on est prêt à perdre de l'argent. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, je ne suis pas du tout dans une idée de penser que les sociétés doivent travailler à perte. Mais en revanche, bravo à ceux qui osent, bravo aux distributeurs qui osent, bravo à ceux qui font des films qui sont compliqués et qui comptent sur les festivals pour vivre, mais aussi sur des publics qui s'intéressent toujours à aller voir des films autres que Les Tuches, même si c'est très bien que Les Tuches existent, puisque les grandes recettes en salle permettent de financer le reste du cinéma français, et cette économie nous font que les gros financent les petits, et c'est l'exception culturelle qu'il faut maintenir.
Est-ce qu'on peut lancer un film avec beaucoup de publicité, comme un livre par exemple, où vous avez quelques articles dans des magazines nationaux, et de suite vous sortez 50, 100 000, 150 000 exemplaires? Pour autant, le livre n'est pas forcément très bon. Ça existe aussi, j'imagine, dans le cinéma. Si vous avez un appui publicitaire, commercial, etc., marketing suffisant, vous arrivez à faire passer un film qui ne mérite peut-être pas autant d'égards et autant de public.
Oui, ça totalement. Et puis, en général, des fois, c'est rationnel sur les retours, des fois, ça ne l'est pas. Et puis on a aussi dans la question que vous soulevez, il y a aussi des choses très étonnantes, à savoir la question des commandes. Alors je ne sais pas si ça existe dans le livre, mais au niveau des films ça existe, c'est-à-dire qu'on a un certain budget, on va dire à un réalisateur, on voudrait que tu tournes ce film-là, il ne l'a pas écrit, c'est une commande d'un distributeur qui l'a déjà financé, qui veut mettre la patte de tel réalisateur pour le tourner. Clint Eastwood par exemple choisit ses scénarios mais n'en a jamais écrit un seul, mais il vient à les choisir. Ses scénarios sont déjà écrits parce que c'est l'industrie américaine qui fonctionne comme ça. On se rend compte qu'au niveau des films de commande, c'est pas les mêmes histoires, c'est-à-dire qu'on ne porte pas à cœur de la même manière. C'est souvent assez rentable parce qu'on accepte de tourner, parce qu'on donne son nom, parce qu'on a fait d'autres films avant, mais c'est pas des films que l'on va suivre forcément sur la durée. Et par contre, ben voilà, on vient y mettre sa patte. Moi, je trouve que c'est toujours extrêmement risqué pour des vendeurs de prendre un scénariste qui est également réalisateur, parce qu'on se dit on a confié à la même personne tout. Et donc au niveau de la vente, souvent on vient à séparer. Tiens, il y a des scénaristes qui écrivent, un réalisateur qui réalise, puis derrière le produit vous échappe quelque part, mais il n'y a pas cette confiance même d'être auteur à 100%.
Étienne Garcia, pour revenir au FIF, ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture.
C'est ça.
Donc qu'est-ce qu'on va voir en ouverture ?
Eiffel de Martin Bourboulon, biopic assez grandiose sur la création de la tour Eiffel et sur la vie de Gustave Eiffel. C'est un film romanesque, liant une histoire d'amour à l'histoire de cette célèbre tour. Permettant, je pense, de montrer la folie de certaines personnes une fois emportées par leur passion. Moi, j'aime les personnages pour lesquels on ne va pas chercher de rationalité. Je pense que l'humain n'est pas rationnel quand il est passionné. Et du coup, c'est le genre de film qui vous dit qu'une certaine folie peut emmener une autre folie, folie de bâtisseur, qui peut donner beaucoup d'idées à beaucoup de monde, mais à la base d'une histoire d'amour que peu de gens connaissent. Et je pense que le film permet d'offrir une vraie humanité à des personnages marqués de tous par leur création, mais dont on connaissait finalement peu leur histoire, c'est la force des biopics.
Vous prenez toujours du plaisir ?
Beaucoup.
Beaucoup. Donc vous êtes un président heureux ?
Oui, c'est différent d'avant.
Pourquoi ? C'est plus professionnel ?
Non.
Routinier ?
Je pense qu'il y a une forme de maturité, j'ai envie de dire. Un changement, quand on a 25 ans, on découvre... On démarre, on essaie d'avoir des choses, et puis à un moment donné, artistiquement, on sait qu'on a ce que l'on veut, et je sais pas, on grandit, on découvre, on a une autre expérience de la vie. Je pense que c'est ça aussi, j'ai pas du tout les mêmes sentiments qu'au début, mais ce qui ne change pas, c'est le partage, et notamment les jeunes. Ce qui est merveilleux, c'est l'énergie, je trouve, que nous donnent les jeunes, et ça, il faut le maintenir, parce que c'est la France de demain.
Merci Étienne Garcia, on va vous laisser vous préparer le retour, elle est dans votre loge, donc on va la libérer pour que vous puissiez vous concentrer. Très bon festival international du film de fiction historique, on le suivra. Venez à Plaisance du Touche, mais je pense que quand cette émission passera, il sera déjà terminé, donc on ne va pas inviter les auditeurs à venir, mais peut-être à aller voir les films, aller au cinéma, aller en salle et ne pas rester chez soi.
Et ils ne le regretteront pas.
Voilà. Ouais. Merci, très bon festival et bravo. Et merci pour ce que vous faites pour le cinéma et pour les jeunes aussi.
Et merci pour ce que vous faites pour la radio.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des pierres à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, il coupait, s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car l'anlade n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain. Gar, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Merci. Bienvenue à la 7e édition du Festival international du film de fiction historique. Et ce qu'on se disait avec mon collègue dans le couloir, c'est que s'il y a quelques semaines, on nous avait parié une salle pleine où tout le monde était rapproché, on aurait signé tout de suite. Merci d'être là ce soir. Je voudrais saluer, dans le dispositif qu'évoquera Robin tout à l'heure, on est en duplex avec le cinéma écran 7 à la Salvetat qui regarde cette cérémonie depuis la Salvetat et qui verra le film en même temps que vous. Donc on voudrait avoir une pensée pour eux qui le vivent virtuellement, mais intensément. Tout d'abord, et c'était important pour nous, vous remercier parce qu'on a été dans une année extrêmement chaotique où il était difficile de pouvoir anticiper les choses. Et dès le mois de juillet, quand on a ouvert les réservations, on a eu... un succès impressionnant de fidélité, sans avoir annoncé quelque programmation que ce soit. Et ça nous montre l'ancrage et l'importance de pouvoir se retrouver en septembre. Donc un grand merci à vous. C'est une organisation qui évolue. On a un festival de jeunes qui reste jeune. J'ai la chance d'accueillir mon nouveau directeur, Romain Berthaumieux. Et on a voulu une année un petit peu particulière quand on s'est posé la question de quoi on va parler cette année, bien avant qu'on puisse faire cette programmation. Et on s'est dit Nelson Mandela. Alors pourquoi Nelson Mandela? Quand on a sorti cette affiche, alors pour juste vous évoquer un mot, en mai 2020, on sortait à peine du confinement, nous étaient venues deux idées d'affiche qui finalement illustraient à la fois la question de la liberté et cette année de l'égalité. L'affiche du dernier métro où on voyait Gérard Depardieu et Catherine Deneuve sortir de terre, on s'en souvient l'année dernière. Et puis cette année, qu'on n'avait pas exploité cette idée où Nelson Mandela regardait par la fenêtre à l'extérieur et puis toutes les vertus de l'égalité. On ne s'est même pas trompé, puisque en voyant cette sélection et cette programmation, beaucoup de films traitent de l'égalité sociale cette année. Et on est profondément honoré d'avoir pu mener cette édition sous l'égide de Nelson Mandela. On voudrait avoir une pensée, puisque nous avons pu nous tenir l'an dernier déjà à tous les festivals qui n'ont pas pu, réaliser leur manifestation. C'est 11 mois de travail et on sait la déception que ça peut être. On voudrait également penser, je sais que Serge Rogourella a signé 32, et au festival d'Auch qui, pour des dégâts, ne pourra pas se tenir dans quelques semaines et qui accueillait des milliers de festivaliers. On a une grande pensée pour nos collègues. Je voudrais vous dire que, à la vue de l'importance du public qui est faite dans notre festival, cette année, il n'y aura pas de jury. Ce sont deux prix du public qui seront décernés, un pour les courts-métrages, un pour les longs-métrages. Et donc, vous serez seul juge des films que vous verrez. Vous serez donc au premier plan, vous y participerez. Vous verrez un court avant un long, hein, il va en toucher un mot. Mais vous pourrez voter tout à l'heure. Il vous donnera les modalités pour évidemment voter d'ici la clôture et remettre votre prix samedi soir. Nous allons donc du coup pouvoir parler de la programmation scolaire, cher Robin.
Tout à fait, Étienne, merci. Pour compléter ce qu'a dit Étienne au niveau de l'ouverture sur la communauté de communes de la Savetouche, effectivement, nous avons cette projection en simultané à la Salvetat, Saint-Gilles, mais également un dispositif scolaire, pour tous les CM2 de la CCST, de la communauté de communes, qui ont été accueillis ce mardi et qui nous a permis d'atteindre 2700 élèves. Donc on est très fiers de ce chiffre, le chiffre le plus élevé en termes d'accueil de public scolaire du festival. Et on souhaite remercier tout le corps enseignant qui nous a suivis dans ce beau projet. On espère encore pouvoir continuer à le développer d'ici les prochaines éditions. À noter également que le festival s'ouvre sur les plateformes, sur les nouvelles séries, et notamment la série événement qui est actuellement diffusée sur Salto, Germinal, dont nous avons ici deux très beaux représentants, puisque Stefano Cassetti et Anna Mialcea sont avec nous ce soir dans la salle. Et cette année, elle est également marquée par le retour des ateliers éducatifs pour les enfants. On a mis en place deux ateliers qui seront donc mis en route demain grâce à la présence de Joris Faucon-Grimaud, Maxence Danet-Fauvel et Sabine Crossen qui sont venus présenter leur film au public demain soir à 19h, mais également aux scolaires dans la journée de demain. Donc merci à vous également d'être présents pour présenter The House of Dance.
Alors, par rapport au grand public, puisque vous êtes le grand public, on a axé cette sélection sur l'international, que ce soit en court-métrage ou en long-métrage. Ça nous intéressait, pas pour avoir le nom d'international, ça fait sérieux, mais davantage parce que ça nous intéressait de regarder l'histoire des autres. On parle beaucoup de notre histoire, mais c'est intéressant aussi l'histoire des autres. Donc on va pouvoir avoir des moments très forts. Un Fils du Sud qui a été présenté à Deauville, l'équipe américaine sera là samedi, c'est la première fois que cette commune pourra accueillir une équipe américaine venant de l'Alabama. On en est très heureux, surtout qu'on avait mis en place des choses sur le plan numérique, mais ils seront là physiquement. Donc, c'est des moments très forts, qui plus est sur une grande thématique, puisque c'est un petit-fils du Ku Klux Klan engagé pour la cause de Rosa Parks. Vous verrez ça samedi. Le bonheur aussi de retrouver des réalisatrices. Alors, je ne suis pas dans un mouvement, mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir voir des films réalisés par des femmes, sur des femmes. Aurélia Georges qui sera là vendredi soir pour La Place d'une autre, merveilleux, avec Sabine Azéma. Et puis samedi après-midi, Sandrine Kiberlin qui vous parlera depuis cet écran et qui nous a fait un merveilleux film sur la liberté. Depuis 2019, où on avait présenté le film Les Hirondelles de Kaboul en ouverture de Zabou Breitman, on n'avait pas pu présenter, parce que ce n'était pas présenté de film de réalisatrice. C'est un autre regard, c'est infiniment humain et passionnant. Donc on est très heureux d'avoir ces beaux films qui nous ont été proposés. La chance a voulu que 6 mois, les salles ont été fermées, donc on a pu avoir encore plus de films que d'habitude à regarder. Je voudrais, avant de parler de la sélection, dire un mot de nos amis du Stade Toulousain. Alors, tout le monde nous a dit « qu'est-ce que vous faites avec le Stade Toulousain ?» Par l'édition Mandela, nous avons produit, enfin qui est en production, un documentaire qui réunit nos deux structures en Haute-Garonne, où j'ai traversé pendant 24 heures avec Emilène Tamac ce qui venait à nous rassembler, sur 4 thématiques, la mémoire, la transmission, l'éducation, le collectif et l'émotion. Et vous aurez un extrait à la cérémonie de clôture samedi en présence d'Emilène Tamac et d'une représentation du Stade Toulousain, du bouclier de Brennus et de toute l'histoire qui fait ce territoire. On en est très heureux parce que finalement, on a beau ne pas œuvrer dans les mêmes équipements, on s'est rendu compte que beaucoup de choses nous rassemblaient. Et c'est aussi ça, un festival de cinéma, c'est s'ouvrir et casser les barrières qui peuvent exister certaines fois. Du coup, on va pouvoir vous présenter cette sélection de longs métrages. Merci à vous.
Une tour, 300 mètres, entièrement en métal, un défi à la gravité, aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris, son rayonnement, sa place dans le monde.
Je vous laisse pas tout seul comme ça, c'est gênant. Oh, y a quelqu'un ?
Robin, tu vas nous parler de ta sélection de courts-métrages.
Tout à fait. Alors, depuis plusieurs éditions déjà, nous essayons de mettre en place une séance dédiée aux courts-métrages, puisque c'est un format qui nous plaît beaucoup et qu'on a envie de mettre en avant. Et depuis quelques éditions, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait du mal à remplir la séance des courts-métrages. Du coup, cette année, on les impose un peu, puisqu'on les place en préséance des longs-métrages. Donc vous pourrez retrouver, avant chaque long-métrage, un court-métrage de la sélection. Donc 6 courts-métrages en compétition, donc une sélection internationale avec 2 courts-métrages néerlandais, un américain, 2 français et... je crois que je suis bon. Et par la suite, 2 courts-métrages en hors compétition également, une sélection coup de pouce avec 1170 de François Zers, qui fait partie de notre équipe, et Rejoins-moi, donc un film, un court-métrage des étudiants de l'UT de Béziers. Donc on a souhaité aussi mettre en avant au sein de notre sélection. Donc juste après la présentation des courts-métrages, je vais profiter de ce moment donc, pour remercier l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Et je vais donc appeler sur ces présidents de la communauté de communes de la salle Touche, Madame Marie-Claude Leclerc, conseillère départementale, et Monsieur Serge Legault, conseiller régional.
Alors, la pandémie n'étant pas totalement terminée, on va être un petit jeu. Donc, Monsieur Guyot, vous allez avoir un micro qui va vous être donné. Madame Leclerc, vous aurez l'honneur du pupitre, le temps que le micro soit repréparé pour Monsieur Rebourg.
Et voilà, c'est pour ça qu'on a les masques aussi. Mais là, on les a pas et vous les gardez. Merci. Donc, je sais pas aussi bien dire merci que Étienne, mais merci à vous tous et à vous toutes d'être venus si nombreux, de faire en sorte que ce festival il s'ancre réellement dans notre territoire. Avec cette année, là, ça a été évoqué, hein, avec la possibilité donc pour les communes de la communauté de communes de la Savotouche de pouvoir aussi participer. Et je suis, mais alors, très 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 heureux de ces 2 séances pour les CM2 de l'Aiguevin et de la vallée de la Save à l'Aiguevin, et puis de la Salvetta à la Salvetta avec Écran 7. C'est pour moi, c'est le gage que le festival il va partir vraiment, il va déployer ses ailes et on va avoir vraiment la possibilité de travailler avec les communes avoisinantes. Alors on commence par la communauté de communes, c'est un peu plus facile, je suis président, mais pour le reste, en tous les cas, on espère vraiment qu'il va y avoir des envieux, il va y avoir des gens qui vont dire ben, c'est tellement formidable, parce que le bouche à oreille, ça marche bien, vraiment, franchement. Et le bouche à oreille autour de ce festival, tout à l'heure, Étienne, il a dit que même avant de connaître la sélection, on a envie, et ben, moi aussi, hein, c'est pareil. Ce festival, on y tient et on veut vraiment qu'il réussisse. Et il ne peut réussir qu'avec le public, hein, et puis bien sûr avec une bonne organisation. Et là, franchement... je vous félicite, ça a été très très dur. Par exemple, l'année dernière, c'était d'une complexité folle. Cette année, c'est un peu plus facile, mais par contre, on n'était pas sûr que le public revienne, et vous êtes là. Et donc voilà, vous avez amené le soleil en plus, donc j'en dirai pas plus. Je suis ravi, alors je suis souvent ravi, mais là, particulièrement.
Madame Leclerc, ce micro-ci. Là, vous avez touché.
Mais j'ai pas touché là, j'ai touché que là. Mais moi aussi, je suis ravie. Et avec Philippe, on disait, puisque ça prend son envol, pourquoi, après la CCST, ne pas penser au canton ? Canton de Plaisance. Hein ? Pour l'année prochaine. Moi, je voudrais juste insister sur ce qui me paraît essentiel. Il y a un très, très beau programme. Mais pour moi, ce qui est le plus important dans ce festival, c'est la place faite aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens. Je sais qu'on a dans la salle l'ancien principal du Collège de Plaisance. On a aussi la nouvelle principale du Collège de Plaisance, qui a pris le relais sans problème. Et ce qui est important, c'est de voir... quand vous faites ce que vous appelez les bords de scène, de voir l'intérêt des jeunes. Quand les jeunes parlent aux réalisateurs, aux comédiens, ils découvrent un autre monde. Depuis qu'ils sont petits, ils sont dans un monde d'images. Bon, je ne vais pas vous expliquer, la télé, les smartphones, etc. Et les images viennent toutes seules. Et c'est important de leur apprendre à les décrypter. C'est important aussi qu'ils se rendent compte que ces images correspondent à des métiers. Est-ce qu'on dit métier ? À des vocations. Et je suis persuadée que dans tous ces jeunes qui, depuis 7 ans, bénéficient de cet accompagnement pédagogique, il y en a qui vont se tourner et vivre après dans ces métiers du cinéma. Je n'irai pas plus loin parce que vous attendez le film, mais je voulais remercier le président et le directeur du festival, vous dire merci et à l'année prochaine.
Je pense qu'il y a des privilégiés ici. Non, je plaisante. Je suis très heureux d'être ici au nom de la région. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes amis et collègues du conseil régional, Rachida, Nathalie et le mari de Nathalie, qui est une star qui ne m'écoute pas, mais je salue quand même très chaleureusement. Ce festival est un festival très particulier pour nous. La région soutient plus de 70 festivals à l'Occitanie et nous avons pu chiffrer du fait de la pandémie, puisque l'an dernier, il y a eu plus de 70 annulations de festivals que nous aidions et que nous avons continué à aider, c'est-à-dire que nous avons versé l'intégralité des subventions, même pour les événements culturels qui n'ont pas eu lieu. Mais ce festival-là, de mon point de vue, et qui est le point de vue évidemment partagé, qui est, j'allais dire, dans la sensibilité de la majorité régionale, c'est que c'est un festival qui a du sens. Le premier élément qui témoigne de ce sens, c'est évidemment cette affiche. Pour les gens de ma génération, et j'ose dire de ma sensibilité, c'est pas innocent que d'afficher la figure de Nelson Mandela. Donc ça, c'est formidable. Et j'ajoute qu'en plus, ce qui est derrière, l'attitude du personnage qui est derrière me plaît beaucoup pour des raisons à la fois esthétiques et politiques. Mais en tout cas, placer un festival sous l'égide de Mandela, pour moi, c'est évidemment un élément qui produit du sens. Le deuxième, je serai très bref parce qu'il a été très bien évoqué il y a un instant, c'est la question du jeune public, c'est-à-dire des enfants. J'ai entendu le chiffre tout à l'heure extraordinaire. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour les politiques culturelles de manière générale, dans une société qui est de plus en plus, quand même, disons-le, déchirée, problématique, avec beaucoup de gens qui sont aujourd'hui rejetés dans les marges, le véhicule culturel est un véhicule essentiel. Et le cinéma a cette vertu qu'il est d'accès plus facile, moins intimidant que d'autres secteurs, que d'autres véhicules culturels. Et donc ce qui est fait ici, avec les enfants, avec les adolescents, pour moi c'est essentiel. Et le troisième élément, c'est évidemment, mais qui recoupe les autres, c'est la programmation, c'est-à-dire la thématique. Il y a beaucoup de festivals qui sont des festivals de cinéma en soi. Moi, comme je suis très cinéphile, bon, ça me convient très bien, mais il n'y a pas d'identité propre de beaucoup de festivals. Et je trouve que, un, l'histoire, deux, par le biais de la fiction, c'est formidable. Parce que, en tout cas, pour ce qui me concerne et pour les gens de ma génération, les représentations du monde ont été fournies par la fiction cinématographique, télévisuelle. Moi, j'ai aucune condescendance à l'égard de la fiction télévisée, loin s'en faut. Et je trouve que la thématique historique, y compris du coup par rapport à ce qui est fait avec les enfants, c'est une formidable idée. Et donc je suis heureux et fier au nom de la région que nous soutenions ce festival. Et donc je dis évidemment toutes mes félicitations aux organisateurs, aux promoteurs, en vous priant d'excuser l'extrême longueur de mon propos. Mais voilà, quand on veut trop embrasser, on mal étreint. Merci infiniment.
Merci infiniment à vous pour votre soutien. Monsieur le maire, monsieur le président, madame la conseillère départementale, on va vous libérer. Monsieur Rocco, vous allez rester avec nous. On va changer de casquette quelques instants. Le Covid a évidemment été un obstacle pour pas mal de monde, mais malheureusement, des personnes n'ont pas survécu à ce virus. Et nous avions une personne qui nous était chère conjointement, qui était dans cette salle il y a 4 ans, monsieur Rémy Julienne, qui nous a quittés il y a 6 mois. Et on avait beaucoup échangé avant, il était en forme, mais voilà, les choses ont dérapé et il n'a pas pu survivre à cette énième cascade. Je voulais, Monsieur Regour, avant d'avoir un hommage en image, que vous puissiez, en votre amitié, dire quelques mots.
Oui, alors il se trouve que j'ai connu moi Rémy Julien avant même qu'il ne soit cascadeur, puisqu'il se trouve que dans une autre vie, lorsque j'étais enfant, adolescent, je suis né dans le milieu du motocross, que j'ai pratiqué très médiocrement pour ce qui me concerne. Mais lorsque j'étais enfant, Rémy Julien venait courir dans l'épreuve de motocross de la Guépisse. Il y a des gens de ma génération dans la salle, ils ont peut-être entendu parler de cette épreuve. Mon père en était l'organisateur et le maire du village. Et Rémy Julien était champion de France de motocross, dont je l'ai connu quand j'étais tout môme. Et lorsqu'il a basculé dans le domaine du cinéma, avec le prestige que l'on sait, j'ai gardé des relations avec lui ponctuelles. Et donc c'était quelqu'un dont finalement on pouvait penser qu'il était immortel. Il était déjà très âgé, mais il fourmillait de projets. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont connu. Je pense à mon ami Ludovic Bertillot, comédien ici présent, avec qui j'étais voici quelques jours au Festival d'Agde. Et il y avait parmi nous l'ancienne compagne de Rémy, Justine, qui était avec lui ici. Et nous remémorions ce personnage qui, à l'âge qu'il avait, il avait eu toutes les maladies du monde, il avait tous les accidents du monde. Il était toujours plein d'énergie, plein de projets. Et face à ce type de personnage totalement hors norme, on se prend presque à imaginer qu'il ne peut pas disparaître. Et c'était un type d'une humilité, d'une simplicité tout à fait formidable, ce qui est le propre des grands. Je crois que tous les grands, dans tous les domaines, sont d'abord des gens qui restent humbles et modestes. Et je suis vraiment heureux que vous ayez pensé lui rendre ce petit hommage. C'est un signe qui fera plaisir à Justine et à ceux qui aiment Rémy. Merci.
On va le passer juste pour une anecdote amusante. Il nous disait par rapport aux efforts, quand à 90 ans, on fait 15 km de vélo par jour et qu'à un moment donné, on vient à chuter, ben on en fait 10 de plus et ça va mieux.
C'est exactement ça.
Il faut retenir ça dans la vie. Un petit hommage et on se retrouve après. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec au montage Tiphaine Lemaine, que je remercie. Belle semaine à toutes et à tous et à très bientôt sur l'antenne d'Esprit Occitanie.